donc nous enchaînons en sautant par-dessus quelques siècles. Je pense qu'effectivement, il aurait fallu prévoir, ou on pouvait prévoir quelque chose sur les marines italiennes, par exemple, médiévales. Marines de guerre, évidemment. C'était intéressant, on va essayer d'y penser. Donc, Monsieur Lecoq, vous avez la parole.
Et les règles d'engagement. Le 19e siècle, on le sait bien, est un siècle de mutations importantes. Disons tout de suite que les mutations de la deuxième moitié du 19e siècle prennent place après deux siècles qui sont non pas des siècles d'immobilisme, mais des siècles d'évolution lente. On pensera en particulier à la propulsion à vapeur, aux projectiles explosifs et à la nécessité du blindage. Et le tournant, au fond, c'est dans les années 1850-1860 avec l'apparition de ce qu'on appelle le navire cuirassé. Et moi, ce qui va m'intéresser aujourd'hui, c'est la relation très forte, l'articulation entre l'artillerie, le blindage, la propulsion, en étant conscient qu'en arrière-plan, il y a une évolution de sciences et de techniques auxquelles les historiens ne sont pas systématiquement, imprégnés de cette affaire. L'évolution de la métallurgie, l'évolution de la chimie et même de ce qu'on appellerait aujourd'hui l'évolution de la recherche, pour utiliser un terme moderne. Des armes nouvelles, je pense à la torpille, je pense en fin de période au sous-marin, et si je puis dire, une arme nouvelle mais ancienne qui est l'éperon, dans les années 1860-1880, dont je reparlerai, qui est un point intéressant. Et puis alors l'électricité, la télégraphie sans fil, et à la fin de période, les instruments de réglage, de distance, de contrôle de tir, il y a une évolution scientifique qui est extrêmement importante. Donc la problématique, c'est l'évolution des opérations navales est au fond une conséquence ou une résultante des progrès techniques, des progrès militaires, mais aussi des progrès humains. Et il faudra regarder ce que tout ça a comme conséquence sur la formation des hommes, sur la formation des officiers, des officiers mariniers et des équipages. À la fin du XIXe siècle, on a des bâtiments tout à fait nouveaux, une puissance de feu considérable, l'artillerie joue un rôle capital, et puis des engagements maritimes d'un type également tout à fait nouveau. Alors, artillerie, maîtrise de la mer, opération navale, on fera ça en trois temps. Dans un premier temps, j'irai, si vous me permettez cette expression, de la voile à la gloire, de la marine du XVIIIe et du XIXe siècle jusqu'à ce frégate cuirassé, et je regarderai comment les opérations navales évoluent au prisme de l'évolution de l'artillerie, de la construction navale et des règles d'engagement jusqu'aux années 1860 à peu près. Dans un deuxième temps, on ira de l'artillerie aux opérations, avec les conséquences de l'artillerie sur le combat naval et sur les impasses aussi, dans une certaine mesure, de ce combat naval pendant les 30 ans qui vont de 1860 à 1890 à peu près. Et dans un troisième temps, je montrerai comment le triomphe de l'artillerie navale et du combat d'escadre est en fait un triple triomphe. C'est le triomphe de l'artillerie cuirassée, c'est le triomphe de ce bâtiment qu'on appelle le Dreadnought, qui apparaît en 1906 et qui est une véritable révolution, et puis c'est aussi le triomphe de la Royal Navy, à la veille de la guerre de 1914. À la veille de la guerre de 14, le combat attendu et décisif, c'est le combat d'escadre. À la veille de la guerre de 14, sur terre comme sur mer, on attend le combat décisif. Et le combat qui doit régler tout en un temps relativement court. Mon ami Andrew Knapp me faisait ressouvenir de cette formule de Churchill qui disait de Jellicoe qu'il était le seul homme à pouvoir perdre la guerre en quelques heures, à peu de choses près. Mais tout ça, c'est la résultante en fait d'un champ de force avec des choix de bâtiments. On sait par exemple aujourd'hui, grâce aux travaux entre autres de Nicholas Lambert, que le choix de Fisher n'était pas nécessairement le Dreadnought, mais était plutôt un modèle de croiseur de bataille, de battle cruiser, qui s'illustra au Doggerbank et au Jutland. Première partie donc de la voile à la gloire, la révolution des opérations navales. La première moitié du XIXe siècle, c'est l'apogée de la marine à voile, mais derrière cet immobilisme apparent, il y a une artillerie qui se perfectionne, mais un cadre d'emploi, si vous me permettez cette expression, ou un cadre opérationnel qui reste assez largement celui du XVIIIe siècle. La plupart des bateaux, je pense aux bateaux français du type Valmy dans les années 1830, sont soit des deux ponts à 90 ou 100 canons, soit des trois ponts qui peuvent porter jusqu'à 130 canons, mais en même temps, l'architecture navale est en progrès. On a maintenant des murailles droites. Ces murailles droites qui permettent de porter des batteries plus vastes, aux dépens quelquefois de la tenue à la mer, évidemment, d'ailleurs. L'artillerie est perfectionnée, en particulier unités de calibre. Je pense aux pièces de 18, de 24, de 36, puis aux pièces de 30, hausse de mire, percussion à amorce, précision, sécurité du tir. Il y a toute une série de perfectionnements techniques qui vient des artilleurs de marine, artilleurs de marine qui d'ailleurs sont largement frères d'armes dans tous les sens du terme des artilleurs de l'armée de terre. C'est l'apparition vers 1840 du canon rayé qui remplace le canon lisse, hein, et qui on comptera désormais en millimètres. Mais le cadre opérationnel reste le même qu'au XVIIIe siècle. Formation des escadres, école à feu, et puis les deux postes les plus importants à bord, c'est la manœuvre dans les hauts et c'est les canons. Et au fond, ça, par rapport au XVIIIe siècle, Olivier, il n'y a pas de changement décisif. Les progrès techniques ont des conséquences malgré tout très intéressantes. En particulier, à partir des années 1836-1837, c'est l'invention des boulets creux, percutants ou incendiaires, les boulets du général Pexens, qui sont évidemment adoptés en France. Et en 1838, vous avez l'attaque de la forteresse de Saint-Jean-du-Léa, au Mexique, où les boulets, les obus Pexens, les obus explosifs font, on le voit d'ailleurs sur ce tableau du temps, qui voit des officiers dans le genre un peu dandy, sur la dunette qui regarde ça comme s'ils étaient à la foire du trône. En fait, c'est pas du tout la foire du trône, parce que les forteresses prennent un sacré coup, et d'ailleurs on en tire des conséquences intéressantes. Le problème, c'est que le blindage ne progresse pas aussi vite, malgré non seulement les travaux de Pexens, malgré les travaux de Drake en Angleterre ou de Stevens aux États-Unis. Et la réduction, l'équation, ça va être la réduction du nombre de canons, parce qu'on a là des choses évidemment intéressantes. La métallurgie est à l'époque incapable de répondre aux nécessités de la protection, donc on se protège contre les obus explosifs par une ceinture de bois, ce qui évidemment n'a pas, c'est le moins qu'on puisse dire, la même efficacité. En même temps, la question de la propulsion est inséparable des autres. Il faut aussi noter, dans les marines des années 1840-1850, une très grande réticence à l'égard de la vapeur. Au fond, le poids augmente, le rendement diminue, les risques d'incendie aussi à bord de bateaux en bois, le rayon d'action aussi, et la question de l'approvisionnement. À l'exception évidemment d'une marine qui est déjà la première marine mondiale à cause en particulier de son réseau de base et puis qui dispose en plus du charbon de Cardiff, qui est évidemment la Royal Navy. Jusqu'en 1853, la vapeur a un rôle auxiliaire, mais nous avons là le premier vaisseau français dont la voilure est auxiliaire. Alors regardez le bâtiment, hein, c'est ce que je vous disais, les formes sont intéressantes, courbes à l'arrière, relativement droites sur les côtés, mais le gréement est assez semblable au fond du gréement de la Chesapeake, enfin des bateaux de la fin du XVIIIe siècle, et un peu plus de métal, voilà le premier bateau qui en quelque sorte déclasse les autres. Sauf que les règles d'engagement sont les mêmes qu'au XVIIIe siècle, hein, la canonnade au plus près, tout ça est en fonction de la portée, au fond, de l'artillerie. Comment passe-t-on de la Crimée à la gloire? Le banc d'essai, c'est vraiment la Crimée, parce que entre 1853 et 1855, il n'y a pas de bataille navale, hein, en Crimée, mais il y a toutes les ressources et la mise en œuvre de la puissance navale. Le théâtre d'opération est en mer Noire, la stratégie est périphérique, elle est liée, au fond, à la supériorité des routes militaires maritimes sur les routes terrestres, et on en tire trois leçons. Primat de la vapeur, opération combinée, et poids de l'artillerie. Et en effet, il y a en quelque sorte la revanche de Saint-Jean-du-Léa, qui est le bombardement des forts de Sébastopol, je le cite, le 17 octobre 1854, parce que ce beau bateau que vous voyez là, le Napoléon, il a la côte complètement percée, sans pouvoir quasiment tirer un obus sur les forts de Sébastopol. Alors on en tire, évidemment, des leçons. Et les leçons, c'est la gloire. Si je puis dire, ça fera plaisir aux militaires présents dont je suis. La gloire, c'est une frégate cuirassée construite par Dupuy de Lôme, exceptionnel ingénieur de cette très belle école militaire qui est encore pour quelque temps l'école polytechnique. Dupuy de Lôme, directeur des constructions navales, frégate cuirassée, mise en chantier en 1858 et en service au début 1860, par parenthèse, je ne fais pas de commentaire sur la durée entre les études, la mise en chantier et la mise en service après essai. Chacun aura compris ici à quoi je pense. 5600 tonnes, donc c'est un bateau lourd, 78 mètres de long, 13 nœuds aux essais, 13 nœuds aux essais. Avec une machine de 900 chevaux, 13 nœuds, c'est pas mal. Hein. Ça lui donne une vitesse moyenne de 11-12 nœuds en formation. Et puis alors surtout, cette ceinture que vous voyez de fer forgé, 10-12 cm de part et d'autre de la ligne de flottaison, et puis 36 canons d'un calibre unique, 160 mm. Et là, on a des obus explosifs, une seule batterie que l'on voit bien là sur le bord. Et donc, la propulsion, le blindage, l'artillerie, tout ça permet de perforer 12 cm de blindage à 800 mètres. Donc on n'est plus du tout dans le combat aussi rapproché qu'on ne l'était. D'un coup, la gloire déclasse l'ensemble des autres bateaux, comme le fera d'ailleurs le Dreadnought en 1906. Les Britanniques ne tarderont pas, avec le Warrior et le Black Prince, quasiment dans les deux ans qui suivent, à avoir des bâtiments qui seront même en partie, sinon supérieurs, tout au moins très légèrement au-dessus de l'égalité, à l'égard de la loi. Et on voit bien que la question de l'artillerie, la question de l'artillerie et des opérations, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Alors, ça met quelque temps avant d'avancer. Chacun pensera pendant la guerre de Sécession, par exemple, au combat de Hampton Roads le 9 mars 1862 entre le Merrimack et le Monitor. Une espèce de combat un peu indécis, la tenue à la mer, c'est le moins qu'on puisse dire, est improbable, sauf que le blindage, ça fonctionne. Les tourelles, invention américaine, fonctionnent aussi très très bien, et puis le primat de la puissance de l'artillerie. Alors à partir des années 1860, pour conclure cette première série de réflexions, on a donc une nouvelle ère, nouveau type de navire, nouveau type d'armes, nouveau type d'opérations, et il faut s'habituer à quelque chose qui sera assez nouveau pour le politique et pour le militaire. À peine entré en service, certains outils militaires sont déclassés. Et ça, c'est quelque chose, c'est une marque, à mon avis, de cette entrée dans ce 19e siècle sur le plan militaire et sur le plan du sujet qui nous réunit, au fond, aujourd'hui. Il y a une deuxième chose qu'il faut aussi tenir, et au fond, mes collègues antiquisants, médiévistes que j'ai entendus ce matin ont des mutatis mutandis, ont des réflexions de ce point de vue-là assez similaires. C'est le coût croissant des dépenses liées à la marine. Mais dans le dernier tiers du XIXe siècle, ça prend une allure totalement exponentielle, parce que infrastructure, bassin, carré, tout ce qu'on peut imaginer, fonte de radou, infrastructure, industrie, innovation, la marine devient un élément de différenciation entre les États. On va désormais avoir des classements extrêmement intéressants de ce point de vue-là, et au cœur du sujet, il y a l'artillerie. C'est d'ailleurs intéressant de voir combien, historiquement, la relation du canon à l'État, la relation du canon à la régale, la relation du canon à l'armée, au fond, on est toujours dans le ultima ratio regum des canons qui entourent les Invalides. Deuxième série de remarques, la question de la puissance de feu, avec, dans les années 1860-1890, le duel de l'obus et de la cuirasse. Revenons un peu sur les progrès de l'artillerie. C'est d'abord la course au calibre. Course au calibre, on la date de la fin du XIXe siècle, elle commence dès le Second Empire. Canon de 160 mm, 190 mm, 274 mm, et ce qui est évidemment assez intéressant, voici le canon de 274 mm en batterie d'un cuirassé du Second Empire. Alors vous voyez la pose un peu alanguie du matelot là, c'est assez récent, c'est un joli tableau d'ailleurs. Vous voyez le système mécanique qui permet de faire pivoter le canon sur son axe. Sur les râteliers, vous avez tous des instruments d'entretien, mais surtout, ce qui est passionnant, c'est que ce canon se charge par la culasse, alors qu'à l'époque, les canons de l'armée de terre se chargent par la bouche. Et donc, on a là une modernité des constructions des ingénieurs d'artillerie navale français qui est, me semble-t-il, extrêmement intéressant. En même temps, ces obus-là, ils ont une pointe durcie, ils ont un détonateur à retardement qui permet l'explosion après la pénétration du blindage. Et les blindages de fer forgé, on est obligé maintenant de les construire sur une, voire deux épaisseurs. Et c'est plus 10-12 cm comme du temps de la gloire, c'est 200 à 300 mm. Donc on est dans des choses assez intéressantes. À la même époque, je ne résiste pas à vous montrer comment la marine britannique charge ses obus. Elle les charge par la bouche, avec une manœuvre qui durera jusque dans les années 1880. Il y a une espèce de bras hydraulique qui introduisent l'obus dans la pièce qui, vous le voyez, est placée en position négative. Inutile de vous dire que la cadence de tir s'en ressent, c'est le moins qu'on puisse dire. Il vaut mieux regarder cette belle photo d'un canon français. En même temps, enfin, une photo de tableau. Pardonnez-moi, monsieur le Président, pardonnez-moi. Tout ça a des conséquences sur la construction navale et sur la formation des hommes. Conséquences sur la construction navale. Le poids de l'artillerie et le poids du blindage, avec, les insuffisances quelquefois de la propulsion, fait qu'on doit réduire le nombre de pièces. Et on doit même réduire la surface protégée. Et là, il y a des écoles très intéressantes. Soit on va protéger ça par un réduit central sur les bateaux, c'est le choix français, avec des tourelles barbettes, c'est-à-dire à ciel ouvert. Soit on va faire comme les Britanniques, c'est-à-dire on protège l'ensemble du bâtiment et on se sert définitivement de la tourelle, dont je rappelle qu'elle a été inventée par les États-Unis et qu'à partir des années 1890, l'ensemble des marines ont adopté la tourelle. Ça a aussi des conséquences auxquelles on ne pense pas toujours sur la formation des hommes. J'ai entendu avec beaucoup d'intérêt les questions sur les origines sociologiques et sur le recrutement et sur toutes ces affaires-là. Cette marine-là, alors là, par rapport à la marine en bois, c'est une autre marine. Et c'est une autre marine sur le plan de la constitution des états-majors, de la formation des officiers, de la formation des officiers mariniers, qui sont nos sous-officiers dans la marine, et même de la formation des équipages. Au fond, modification du recrutement, les populations littorales ne suffisent plus, modification de la formation et modification de l'entraînement, et je dirais même du type de commandement et du type de discipline, je vais en dire deux mots. Pour les officiers, on voit clairement la séparation pont-machine. On aura là deux catégories fort différentes, avec des modes de recrutement assez différents, que ce soit dans la Royal Navy ou dans la marine française, ou même dans la marine allemande et autrichienne. Et puis l'artillerie, la manœuvre qui devient de plus en plus complexe. Il ne s'agit plus de compter seulement sur les voiles, mais il s'agit de compter sur les mouvements des hélices, et de plus en plus sur des hélices dont les pas peuvent être inversés. Enfin, on a là des perfectionnements techniques et scientifiques extrêmement intéressants. Et puis, ces officiers deviennent, qu'on le veuille ou non, quasiment tous des ingénieurs. Et puis, l'élite de l'officier, et ça, à mon avis, jusqu'à la guerre de 40, c'est le canonnier. Les meilleurs qui sortent de l'école navale choisissent l'école de canonnage. C'est vrai aussi dans la Navy, c'est vrai un peu partout. L'élite des marines, hein, c'est les gens, c'est vrai dans la marine américaine aussi. Mais les équipages, le recrutement traditionnel ne suffit plus. Il faut des mécaniciens, il faut des chauffeurs, il faut des servants de pièces compliquées. Ce matelot qu'on voit là, accoudé un peu négligemment, il est probablement en tenue blanche, donc il est à Toulon ou il est en escale. C'est devenu un spécialiste. C'est pas le gabier que l'on forme à la limite à la mer après l'avoir recruté dans des conditions improbables à la veille de l'appareillage. Or, passer du gabier breton à l'ouvrier d'usine, c'est un autre état d'esprit. Et entre la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle, avec en particulier la syndicalisation dans les usines, c'est aussi un état d'esprit qu'on va retrouver sur les bords. C'est un sujet... On ne peut pas en parler parce que ce n'est pas l'objet, mais nous y avions travaillé avec Olivier Chaline. C'est un sujet qui permet aussi d'expliquer dans une certaine mesure les crises d'indiscipline de la marine française en 1919-1920. La question de l'artillerie maintenant et des opérations navales conduit aussi quelquefois à des impasses. Parce qu'au fond, les navires sont de plus en plus lourds, de plus en plus armés. On arrive à des bêtes comme celui-là. Le cuirassé formidable, 1872. C'est un cuirassé énorme parce qu'il porte des canons de plus en plus forts. Les Italiens iront encore plus fort puisqu'ils construiront un bateau qu'on appelle le Lepanto. Lepanto, c'est assez intéressant. Avec deux tourelles de 450 mm. Chacune des tourelles pesant plus de 100 tonnes. Inutile de vous dire que la manœuvre à bord aussi devient, dans ces conditions, un peu compliquée. Et au fond, la protection sera toujours insuffisante, l'artillerie sera toujours limitée, la portée, la distance de tir reste évidemment extrêmement limitée. La cadence de tir, ça, c'est un coup toutes les 5 minutes. En plus, un coup au but là-dessus, puis c'est terminé. Hein, parce que, inutile de vous dire que... voilà. Et en même temps, les poudres qui sont utilisées à l'époque, sans entrer dans la technique, c'est ce qu'on appelle une poudre noire, la poudre brisante, celle qui ne permet pas d'augmenter la vitesse initiale. Quand en artillerie, on ne peut pas augmenter la vitesse initiale, on augmente le calibre. Mais la distance, évidemment, n'augmente pas pour autant. D'où la question des opérations navales. Quelle bataille livrée sur mer avec ça ? Et dans les années 1880-85, il y a un amiral britannique qui s'appelle Sir George Elliot qui dit au fond les engagements au canon, c'est pas forcément une bonne chose. D'autant qu'en 1866 a eu lieu à Lissa une bataille navale où les Autrichiens ont éperonné les Italiens. Et alors on assiste au retour de l'éperon. Disons tout de suite que 20 ans de fascination rostrale, si vous me permettez cette expression, aboutissent en fait à plus d'abordages accidentels en temps de paix qu'à de victoires navales sur mer. Mais ça a une conséquence en matière opérationnelle. C'est qu'à partir du moment où on privilégie l'éperon, on choisit la ligne de front et non plus la ligne de file. Ne serait-ce que parce que s'éperonner en ligne de file, ça peut aussi arriver, et ce n'est pas forcément l'effet final recherché, comme on dirait, dans une armée qui met malgré tout assez proche. Après cette affaire, il y a la portée croissante de l'artillerie. La portée croissante de l'artillerie. 1870, on tire à 5000 mètres. 1890, on tire à 10 000 mètres. 1910, on tire à 20 000 mètres. Alors évidemment, ce n'est plus les mêmes opérations navales, c'est pas le même type de guerre. S'ajoute à ça l'arrivée de la torpille, et non plus les engins de la guerre de sécession ou même de Fu Chehu en 1884, les torpilles Whitehead, qui sont des instruments extrêmement intéressants. Quelques chiffres, 1877, vitesse 7 nœuds, portée 1000 mètres. 1900, portée 5000 mètres, vitesse 15 nœuds. 1914, la torpille porte à 15 000 mètres. Elle va à 25 nœuds et elle porte une charge explosive de 170 kg. Donc on a là, évidemment, des éléments qui sont extrêmement intéressants. Et les forces et les opérations, évidemment, calibre, éperon, torpille, on met en cause la constitution des forces. Et on imagine même que ces gros bateaux-là pourraient un jour ne plus être les avantages décisifs pour une force. C'est l'époque où, en 1881, l'amiral français Aube publie un ouvrage qui s'intitule « La guerre maritime et les ports français », assimilant les torpilleurs à des tirailleurs maritimes. Le malheur de Aube, c'est qu'il avait un membre de sa famille qui était journaliste et qu'au moment des expériences de Pasteur, il voulait montrer que, ainsi que le microbe tue l'infiniment grand, le petit torpilleur peut tuer le gros cuirassé. C'était pas ce que disait Aube. Aube pensait à la guerre de course, il pensait aux croiseurs cuirassés, il pensait pas exactement comme ça. Sauf que, à cette époque-là, au fond, ce qu'on appelle la jeune école en France aboutit à imaginer la guerre comme ça. Voilà la guerre du futur, avec au fond, en première ligne, ce petit torpilleur de défense mobile. On en a construit 200. Une partie au chantier Augustin Normand du Havre, d'ailleurs, ou au chantier d'Utrecht. Et ces torpilleurs de défense mobile, comme leur nom l'indique, quand ils prennent la mer, c'est la mer qui les prend. D'autant que, contre ces bateaux-là, les Britanniques vont inventer un bateau contre-torpilleur, qu'on va appeler le Destroyer. Et sur leur bateau de guerre, ils vont mettre en place des canons à tir très rapides pour écarter, au fond, la poussière navale. Troisième et dernier élément de ce que je voulais vous dire, le triomphe de l'artillerie cuirassée et du combat d'escadre. La fin du XIXe siècle, c'est le temps, au fond, des équilibres. Il y a toute une série d'innovations techniques en chaîne, chimie, métallurgie, balistique, tout ça est conjugué. À partir de la fin du XIXe siècle, la poudre lente ou colloïdale ou poudre B remplace la poudre noire. Et là, la vitesse initiale passe à jusqu'à 450, 650 mètres secondes. Donc c'est une vitesse initiale très, très importante. La charge augmente, les pièces s'allongent. Les procédés de chargement sont mécanisés, les freins hydrauliques, l'électricité, les tourelles sont électriques à partir de 1895. Donc tout ça, évidemment, surmultiplie la puissance navale et on a, au fond, un modèle achevé d'armement. Vers 1890, les meilleurs résultats, ce n'est pas les pièces les plus lourdes, c'est les pièces de 305, qui sont des pièces déjà, évidemment, extrêmement intéressantes. Et par sympathie et estime et respect pour notre ami John Hattendorf, Je voudrais vous montrer le USS Texas, qui est un très beau pré-dreadnought, qui comprend 4 canons de 205. On voit la tourelle avant, là, vous voyez la tourelle avant. 8 canons de 203, 12 canons de 177. Donc, il est quand même très, très solidement armé. Et en fait, il a des pièces majeures pour couler, des pièces secondaires pour atteindre les hauts et les ponts, et des pièces, disons, de calibre moindre, c'est quand même du 177, hein, pour tirer à tir rapide, pour tirer sur les torpilleurs. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'en même temps, ces bateaux-là, ils ont, par suite des progrès du blindage, je pense au nickel chrome et à toute une série de choses que l'on connaît bien, l'épaisseur du blindage diminue. Donc la protection peut s'étendre à la coque et au pont blindé, parce que l'artillerie secondaire, elle vise à détruire les ponts. Hein, il arrive aussi que l'artillerie principale le fasse, type Hood, mai 1941, mais c'est autre chose. Et puis c'est l'époque où on imagine aussi un cloisonnement des bateaux, qu'on fait des tranches de façon à ce que si une tranche est touchée, on l'isole des autres et le bateau peut rester à flot. Et donc ce début du XXe siècle, c'est le triomphe véritablement du combat d'escadre. Sauf que le combat d'escadre suppose des séries longues et des séries homogènes. Le militaire le sait d'ailleurs dans bien d'autres domaines. Les Britanniques se sont mis à faire des séries homogènes à partir du Naval Defense Act de 1889. Et ils vont construire, je pense évidemment des bateaux pré-dreadnought, hein, ils vont construire des bateaux du type Royal Sovereign ou Majestic jusqu'à 20 bâtiments homogènes. Quand vous avez 20 bâtiments homogènes construits avec les mêmes plans, avec des chantiers identiques, vous les faites manœuvrer ensemble, évidemment, sans difficulté. Et donc la série homogène, la série longue, la capacité des arsenaux, et donc la capacité industrielle, et donc la capacité financière, et donc la capacité politique, tout se tient, on le voit, de manière extraordinairement forte. C'est malheureusement exactement le contraire de la flotte française à la veille de la guerre de 1914, parce que c'est une flotte d'échantillons. On a à la fois des cuirassés, des croiseurs, lourds, et on a des bateaux qui, surtout, ne sont pas construits dans les arsenaux d'État de manière systématique, qui tous ne peuvent pas, si je puis dire, répondre à la commande. C'est donc pas un problème financier. Il ne faut pas imaginer que la marine nationale ait, à la suite de la guerre de 1870, fait les frais d'une politique de réarmement ou d'armement de l'armée de terre. Ce n'est pas vrai. L'argent dépensé par la marine, simplement, a été mal utilisé. C'est un point qui n'est pas du tout indifférent. Et c'est la cohérence des politiques publiques qui conduit à ça. Le cuirassé Bouvet, regardez les formes rentrantes, regardez les pièces surélevées, regardez ce qu'on appelle les mâts militaires. On a encore des canons dans les mâts. Et là, vous avez un musée de l'artillerie. Vous avez du 305, du 254, du 138, du 100, du 47 et des pièces de 20 pour le salut, naturellement. Et donc, on a un bateau qui, en plus, est exceptionnellement conçu pour chavirer, comme le montreront malheureusement. Il a rempli toutes ses attentes, puisque c'est lui qui disparaît en moins d'une minute aux Dardanelles avec son équipage. Le surnom de ces bateaux, en même temps, comme ça fait penser à ce qu'on entendait sur l'éperon tout à l'heure et sur la charge de l'éperon sur l'avant de ces bateaux à rames, la lourdeur et le côté mal disposé au fond de l'équilibre des formes fait que les surnoms de ces bateaux dans la marine sont Belle Cible, Grand Hôtel ou Cuirassé Sous-Marin.
C'est la donc, faute à qui, si
mais ça, c'est si vous voulez, on
c'est
a...
Lévin, tout
Non. Je crois qu'il y a d'abord un défaut d'organisation du ministère de la Marine qui ne dispose plus à cette époque-là, ce dont il disposait au temps du Puy de l'Aume, d'une direction centralisée des constructions navales. Les ingénieurs qui se sont aussi... les ingénieurs, on sait que ce sont des gens intéressants, mais qu'il faut de temps en temps tenir reine courte, qui se sont amusés à faire des plans assez différents, avec des séries de 2 ou 3 bâtiments. Sauf le Danton, c'est le premier où il y a une série de 8, mais 8, c'est quand même pas non plus à l'époque une série très importante. Et puis surtout, d'un chantier à l'autre, les constructeurs du bateau ont modifié les spécifications. Et donc ça fait, non seulement les séries sont hétérogènes, mais on a dit, attention, là, il faudrait peut-être, c'est un peu chargé dans les hauts, il faudrait peut-être changer ici, attention à la forme. Pourquoi seulement 150 mètres de long, 157, ce serait mieux. Oui, les archives du service historique montrent des choses, c'est le moins qu'on puisse dire, très, très, très curieuses. Et en même temps, il y a des combats navals qui se déroulent à la fin du XXe siècle et jusqu'à Tsushima. C'est la guerre sino-japonaise de 1895, c'est la guerre américano-espagnole de 1898, et c'est la guerre russo-japonaise de 1905. Et on en tire quelques conclusions intéressantes. Efficacité de la ligne de file, abandon de la ligne de front. Pourquoi ? Parce que la ligne de file autorise la concentration de l'artillerie. C'est cette fameuse opération qui consiste à barrer le T des flottes adverses en concentrant toute l'artillerie sur la tête de la ligne adverse, ce qui s'est d'ailleurs passé à Tsushima. Une fois que la tête de la ligne adverse a été réduite, tout le reste y est passé par des mouvements tournants. Et nous sommes donc bien dans le triomphe de l'artillerie cuirassée et du combat d'escadre, c'est-à-dire de la Royal Navy et du Dreadnought. Deux mots sur ce point qui me semble vraiment intéressant. C'est en fait le résultat d'un champ de force. Je crois qu'il faut se souvenir du contexte politique, diplomatique, économique, financier, militaire du Royaume-Uni en 1906. Puisque ce que nous faisons ici à propos de la bataille montre bien que les impératifs ou l'arrière-plan social, économique, philosophique même quelquefois, jouent dans nos affaires militaires. Nous ne sommes pas enfermés dans nos domaines maritimes et militaires. Tout au contraire, c'est une clé pour ouvrir la lecture du monde. Et au fond, on le voit bien avec le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni en 1906, l'ennemi, ce n'est pas l'Allemagne. Le tournant a été pris en 1905 en Allemagne, mais personne ne l'a vu. Olivier Chaline parle très souvent de 1905 comme du Sedan naval. C'est vrai pour la France, c'est l'année où la flotte allemande dépasse la marine nationale. Mais en 1906, l'ennemi pour l'Angleterre, ce n'est pas du tout l'Allemagne. L'ennemi pour l'Angleterre, au fond, c'est moins la France depuis l'entente cordiale de 1904, même si elle n'a pas d'impératif naval. La Russie a été mise out en 1905. Et donc, pour les Britanniques, ce qui compte, ce n'est pas de livrer en matière maritime un combat en Europe, c'est de livrer un combat partout. C'est-à-dire de protéger, au fond, les lignes de communication partout et d'être capable à la fois de maîtriser la mer et de défendre l'Empire. Et pour ça, le moyen, c'est le croiseur de bataille. C'est le battle cruiser de Fisher, premier lord de la mer de 1904 à 1910, avec une belle longévité. Et en même temps, il faut donner du travail au chantier privé. 50% de la construction navale britannique est privée, je me permets de le rappeler, à une époque très difficile sur le plan social, le début du XXe siècle. Et en même temps, il faut tirer les leçons de l'artillerie, du blindage, de la puissance, et en même temps, il faut montrer que la marine, que la Royal Navy est on the move, qu'elle est capable d'être innovante, parce qu'à l'époque, à la suite de la guerre des Bourses, c'est l'armée de terre qui attire toute l'attention du gouvernement britannique. Et c'est cette conjonction de choses qui va donner ce qu'on appelle le « all big gun ship », c'est-à-dire, ah non, celui-là s'en éteint aussi, celui-là, le « dreadnought »,« fear God and dreadnought », comme le disent les textes. Vous avez, grâce à l'aimable collaboration d'Olivier Chaline, c'est lui qui m'a trouvé vous avez, en plan et en coupe, là, vous avez 12 pièces de 305 en tourelle double, écrasante supériorité de feu, augmentation de 200% de la capacité de feu, évidemment, d'un coup. Vous avez en même temps des turbines Parsons, alors là, qui donne évidemment une vitesse qui n'a plus rien à voir. Hein. Ça file du 22 nœuds. En même temps, vous avez là, on le voit juste devant, regardez la tourelle arrière. Et regardez le mât qui est sur la tourelle arrière. Ce mât sur la tourelle arrière, il porte ça, c'est-à-dire les télémètres Barnes-Stroud, innovation extrêmement intéressante, calcul de distance, paramètres de tir, télétransmission aux tourelles, avec en même temps cette invention de Sir Percy Scott qui est le fire direction, la direction de tir. On voit les gens qui sont assis là, on voit les jumelles. Sur le côté, cette espèce de petit appareil, vous avez A, X, Y, qui sont l'identification des tourelles. Ça signifie qu'on concentre qu'on est capable de concentrer le tir non seulement à l'intérieur d'un bâtiment, mais pour une escadre, ce qui évidemment change complètement la donne. Hein. Une direction, un contrôle de tir au poste central, poste de télémètre avant, poste de télémètre arrière, conduite de tir, délégation de feu aux tourelles, on est là dans la guerre moderne. Guerre moderne d'ailleurs, pour être clair, que la France se permettra de conduire. Voici, et on voit toute la différence, regardez, entre ça, le Bouvet 1909, par parenthèse, il entre en service après la révolution du Dreadnought. Celui-là, il est déclassé, même pas aux essais, mais sur plan. Le Bouvet de 1909, regardez la différence de ligne avec le Courbet 1913. Voilà un bâtiment moderne, moderne pour l'époque, hein, naturellement. Il ressemble d'ailleurs relativement au Dreadnought. Hein. Regardez, j'ai trouvé les plans et vues là où vous aviez... regardez ces plans et vues du Courbet avec les télémètres, avec la direction de tir, avec les tourelles doubles de 305, qui sont plus équilibrées que dans le Dreadnought. Ça permet, regardez la répartition des tourelles au milieu du bâtiment, au centre un peu de gravité du bâtiment. Regardez les tourelles avant et les tourelles arrière. Ça permet de mettre deux tourelles à l'avant et deux tourelles à l'arrière, là où le Dreadnought a choisi de placer ses tourelles doubles un peu en avant du bâtiment, ce qui fait qu'il embarque plus, comme on dit dans mon armée d'appartenance. Il embarque plus à la mer que le Courbet, mais qui a aussi l'avantage d'être de 1913. Hein, donc il a pris, on a un petit peu les sons. Je suis encore dans les temps. Je peux conclure. Je crois avoir essayé de vous montrer. On va revenir sur quoi on va rester. Allez, on reste sur la France.
Il est chaud, hein.
Ah, mais je peux vous mettre la gloire aussi.
L'anglais en couleur est si beau.
On fait ce qu'on veut. Concluons. Je crois que en 1914, on a une articulation entre un type de bâtiment, le Dreadnought, un type de règle d'engagement, pour parler un langage un peu moderne, qui est le combat d'escadre, et la ligne de file qui consiste à barrer le T. L'artillerie est au cœur de cette articulation. Au fond, calibre unique, protection, distance d'engagement, contrôle du tir à bord des bâtiments, direction du tir pour l'ensemble de l'escadre, cohérence de tir d'un bâtiment, cohérence de tir et concentration des feux d'une escadre. Alors il y a trois éléments qui restent essentiels, c'est le renseignement, où est l'ennemi, y compris par parenthèse à la mer, parce que la vue des escadres à la mer avec la chauffe au charbon qui crache peut quelquefois, lors du combat, brouiller les estimations entre les bâtiments. Le deuxième élément essentiel, c'est la manœuvre d'escadre. Et là, les grandes marines sont manœuvrantes, bien évidemment la marine britannique, qui a l'habitude de la manœuvre et l'exercice à la mer, bien évidemment la marine française, mais regardez, pour une marine jeune, les manœuvres de la Kriegsmarine au Jutland et le renversement tout à la fois, pour une marine qui a à peu près 25 ans, c'est aussi tout à fait exceptionnel. Parce que les manœuvres d'escadre, ça demande des années, des décennies et même des générations, au fond, de marins. Entre 1906 et 1914, toutes les grandes marines se convertissent progressivement au Dreadnought. Pour le Royaume-Uni, l'ennemi, je l'ai dit, c'est la Russie, c'est un peu moins la France. Les Britanniques craignent un peu nos croiseurs cuirassés parce qu'ils se disent qu'au fond, ça ferait de bons raiders contre le commerce, mais les choses, évidemment, s'éteignent. Mais la principale difficulté pour le Royaume-Uni, elle est financière. Welfare ou warfare, au fond. Surtout avec les gouvernements qui changent à la veille de la guerre de 1914. On comprend que le Dreadnought résout en partie ces contradictions. Rationalisation des productions industrielles, avec des séries longues, centralisation des constructions, préservation des capacités industrielles aussi, transmission du savoir-faire technologique, et en particulier dans ce qu'il faut appeler le Naval Industrial Complex, à la veille de la guerre de 14, 50% de chantiers privés. Mais les chantiers privés, c'est intéressant, en particulier pour l'artillerie. Ce sont les chantiers privés qui sont les premiers fournisseurs de canons, sauf que dans le Dreadnought, allez, je reviens... Dans le Dreadnought, on passe de 2 canons de 305 à 12 canons de 305. Et donc, passer comme ça de 2 à 12, c'est aussi donner du grain à moudre aux chantiers privés, dans une époque sociale où les trade unions, c'est le moins qu'on puisse dire, se font entendre. À partir des années donc 1910, l'adoption du modèle unique de bâtiment de ligne, un modèle unique copié sur celui-là, d'artillerie, de conseils d'emploi, c'est la ligne de file, c'est le combat d'escadre. Sauf que, mes chers collègues, sans série longue, sans bâtiment homogène, sans artillerie puissante et feu de concentré, pas de ligne de file. Autrement dit, tout se tient dans cette évolution de la veille de la guerre de 14. Certes, il y a des armes nouvelles qui pourraient contrer le canon. On pense aux sous-marins, on pense à l'avion. Ce sont des menaces sérieuses. D'ailleurs, les Britanniques et Fisher y pensent lui-même, les Français également, qui ont en matière de sous-marins une relative avance et compétence, les Allemands aussi. Mais ce sont des menaces sérieuses, mais pas à court terme. Ce sont des menaces sérieuses. À moyen terme, elles ne sont en tout cas pas décisives. Ce qui l'emporte, c'est la bataille en haute mer, au canon qui commande tout. C'est donc l'artillerie cuirassée et son emploi qui permettent à la fois le combat décisif et donc la victoire. Le combat décisif, c'est la manœuvre des escadres. C'est le type de guerre navale que chacun attend en 1914. Je vous remercie.
Merci à vous. Vous avez parfaitement saisi l'esprit de ce programme sur la guerre et l'homme. Tout se tient, c'est-à-dire... On peut prendre n'importe quel aspect et en creusant suffisamment, tout vient, si vous voulez. Et je suis persuadé qu'avec M. Attendorf, nous continuerons à vérifier cette maxime. Vous avez la parole.
Merci beaucoup. Et pardonnez-moi que je présenterai en anglais. Et que je n'ai pas une présentation illustrée. When one looks at the spectrum of world naval history, the nature and character of major naval battles have changed dramatically over time. These changes have tended to punctuate and divide long periods in history, during which the basic concept of naval battles remained largely the same. The key periods are traditionally seen as the age of galley warfare that characterized classic naval history, the line of battle from the mid-17th century to the early 19th century, the age of naval warfare under steam in the mid to late 19th century, and the age of air and submarine combat in the first half of the 20th century, and most recently, the age of the missile, space, and cyber warfare dating from the latter half of the 20th century into the present. Each of these periods in naval history has typically been characterized by a dominant type of warship, which is closely associated in its design with new emerging weapons and weapon systems of that era. As that list suggests, the periods of characteristic naval battles have tended to become relatively shorter and shorter in the modern period, as naval warfare reflects the ever-quickening pace of technological innovation since the Industrial Revolution. At the same time, however, one must note the characteristically, the specific period does not necessarily exclude the earlier forms, but may occur alongside them. For example, the galley that typified ancient warfare was used in the Baltic, North America, and the Mediterranean well into the 18th century. Similarly, the classic tactic of crossing the T that became so famous in the battles between the ships of the line in the 18th century was used by the American battleship force that engaged the Japanese in Surigao Strait in October of 1944. There can be a variety of reasons of why there is an overlap between eras, and these include the continued use of a particular weapon and technologies across periods, even when they are no longer the predominant forms. But there are also some fairly typical and conflicting human attitudes and understanding involved in the adaptation of new technology. In the United States Navy, Eugene Ailey was the first to pilot an aircraft from a ship when he took off from a platform on the bow of the cruiser USS Birmingham in 1910. He was also the first to make a shipboard landing in the following year in 1911. And just a little over 3 years later, the U.S. Navy's first flight in combat environment took place in Bellinger flew aircraft from the battleship Mississippi off Veracruz, Mexico, to look for mines in the harbor. After the United States entered the First World War in 1917, American naval aviators first came to European waters, where they saw service over the North Sea, the Channel, the Bay of Biscay, and the Mediterranean, many of them based here in France. At the same time, a U.S. battleship squadron joined the Grand Fleet, and American naval officers observed the Royal Navy's development of the first aircraft carrier. As early as 1918, the U.S. naval staff based in London proposed a building program that was very similar to British ideas and included aircraft carriers. The Royal Navy even sent a senior naval constructor to Washington with plans for their future aircraft carriers in 1919. By the end of the First World War, the U.S. Navy had some 2,000 aircraft of various types. Key concepts for future use of aircraft carriers and naval aviation in combat were developed in conjunction with the fleet battle problems, the annual fleet exercises that took place between 1923 and 1940. These exercises involved not only the fleet and all its top commanders, but also the Chief of Naval Operations and the key agencies throughout the Navy, including the Naval War College, the General Board, and others. By 1938, 1940, carrier operations in these exercises had come to closely resemble those that were later carried out in actual combat in 1941-45. For many, the fleet battle problems had created a consensus about the value of carriers and of naval aviation. In particular, they suggested that the aircraft carrier had become a partner with the battleship in a key element of naval power. High-speed autonomous carrier task forces had enormous ability to project naval air power over great distances. Aircraft carriers were, however, were highly vulnerable to air, surface, and subsurface attack. Air carriers carried extensive logistical support for success, and the various types of aircraft were experimented with. The patrol bombers were ineffective, the dive bombers were somewhat more effective, and the rigid airship was entirely ineffective as a fleet scout. Among these observations illustrated the progress that had been made in thinking about the use of naval aviation during the interwar years. And they did not clearly anticipate fully the manner in which aviation would change the nature of naval battle during the war. The Naval War College, where I am based, has been established in 1884 as the place within the Navy to consider the highest aspects of the profession of arms. It was designed to be the place to think about how wars begin, how wars end, and how wars may be avoided, as well as the nature and character of war at sea and of naval battle. Thus, for this purpose of this paper, an examination of the lectures of the Naval War College students heard in 1941 to 45 might provide some insight into the subject. In February 1942, a faculty member of the Naval War College explained to his mid-career officer students the dichotomy that he was observing at the time. To one, the airplane revolutionizes. To another, it merely adds a new branch to the Army and to the Navy. To one, control of the sea can no longer be fitted to the static concept of the past. The battleship is doomed. To that one, air power is of itself sea power. To still another, the term air power is a misnomer. The airplane is a weapon, the rifle, the bayonet, and the cannon. While many referred to the airplane as merely a weapon, the Naval War College lecturer went on to point out that it was fundamentally a vehicle, not a weapon. As such, it should be grouped with other vehicles like the battleship, the cruiser, and the submarine. All traverse a fluid medium, he said. Ships float from the difference of specific gravity. The airplane is sustained by dynamic reaction. As the Pacific War began, naval officers at the Naval War College could see that in terms of the airplane's tactical effects, it enlarged the area of tactical concept and action. In coastal areas, it merged the naval and military spheres of action, adding within the zone of aircraft operations an important augmentation for the tactical means to obtain information, maintain security, and undertake action. And while with the addition of aircraft carriers, the Navy acquired a means to take the tactical offensive against all classes of surface war vessels. At the same time, carrier-borne aviation initially appeared to reduce the importance of destroyers and submarines as the principal means of inflicting attrition on enemy forces, while also having the capacity to destroy enemy aircraft, as well as to protect one's own assets. It seemed in early 1942 that these capabilities of naval aircraft served particularly to increase the importance of aviation in the preliminary and in the final phases of naval actions. In the late spring of 1942, the Naval War College received a new staff member who became the principal lecturer in aviation issues over the years, a man by the name of Captain Archibald Douglas. Building on lectures that had previously been given, and Douglas pointed out some further points for general consideration, having just come from the command of an aircraft carrier, the Saratoga. In his primary point, Douglas emphasized that successful application of air power necessitates air components properly trained, equipped, and staffed to operate both as independent striking forces beyond the range of surface forces and in effective support of surface forces. He then went on to point out that surface ships and fleets cannot sustain effective operations within range of shore-based enemy air without having superior air support of its own. The recent sinking of HMS Prince of Wales and HMS Repulse in the South China Sea in December 1941 had underscored the point that surface ships and fleets cannot sustain operations with much effectiveness within a range of the shore. As the same, the British attack on the Italian fleet at Taranto in November 1940 and the Japanese attack on Pearl Harbor in December 1942 emphasized another point. The existence and the effective fleet arms tends to deny or limit the use of geographically advanced bases and anchorages. However, suitably located and protected operating bases and fields, which are well stocked and maintained, are controlling factors to the capacity for applying air power. In this story, the development of the airplane for naval uses was only one side of the story, while the development of the aircraft carrier was the other. The Royal Navy had pioneered in the development of the aircraft carrier during the First War, and as its design matured in the 1920s and 30s, the Royal Navy and the United States Navy saw the carrier in relation to the naval aviation as the eyes of the fleet in scouting and for enemy approaching the battle line and the formation of heavily armed battleships. A few far-seeing officers who specialized in aircraft carrier duty developed further attack functions for aircraft carriers and bombing and torpedo planes that by the end of the 1930s had outnumbered the fighting aircraft. In his follow-on lecture on the aircraft carriers, Captain Douglas very effectively made a point by noting in the 1934 London conference, the future Japanese Admiral Yamamoto had publicly declared, "We consider the aircraft carrier the most offensive of all armament." In Japan, Admiral Yamamoto had been criticized for his emphasis on aircraft to the neglect of battleships. How, he was asked, can you expect to destroy a battleship except with a battleship? With torpedo planes, replied Yamamoto, and he quoted a Japanese proverb, the fiercest serpent can be overcome by a swarm of ants. Douglas saw several key favorable attributes for aircraft carriers. His most important attribute was the strong offensive power that was made possible for the effective use of its aircraft. The principal unfavorable attribute of the carrier was its vulnerability to attack and its need for extensive, unhampered sea room to launch its aircraft. Douglas underscored his point by noting that it has its weaknesses just as all other types have theirs. It is vulnerable just as all other ships are if attacked with proper and sufficient weapons. A year later, in 1944, during one of his last lectures at the Naval War College, Douglas reflected, the airplane, by extending the area in which the contact between forces operates from land and sea is possible, has greatly complicated the problem of gaining, maintaining, and exercise control of the sea. It presents an additional means by which the control of the sea area may be attained and disputed. Likewise, the problem of coastal defense is extended to vital points several hundred miles inland. In the wider world outside the corridors of the Naval War College, there has been much popular discussion in the public media about how aviation had changed the nature of naval warfare. Bernard Brody, a lecturer in Dartmouth College in 1941-43, who would later become a key figure in the development of nuclear strategy and nuclear deterrence, had begun his career as a student of naval history with his 1941 University of Chicago PhD thesis on major naval innovations. In 1942, he published a widely read volume entitled A Layman's Guide to Naval Strategy. With his early background in historical research, he cautioned readers about becoming too enthusiastic about any new invention. Since the attack on Pearl Harbor, he said, air enthusiasts have had a field day. The admiral who can be charged with retaining traditional notions of naval strategy, by which is meant a disposition still to value the naval gun and the ship that bears it, is the target not only of ridicule, but of suspicion. He is accounted as belonging neither to the quick nor the dead. Few press and few radio commentators have dared to or cared to remain off the bandwagon, lest they betray themselves as classed among the moribund brass hats. The result is that all the honors of war have gone to the trim little ships with wings. In a pursuit so complex as is waging war, it might be best to set down an axiom that no one factor, and certainly no one weapon, can be exclusively decisive. In concluding his chapter entitled, Must All Our Ships Have Wings, Brody wrote, by properly combining weapons, we achieve maximum strength. Which weapon becomes the dominant one is of no consequence except to the operating personnel involved. With the conclusion, Brody clearly encapsulated the issue of in the War of the Pacific. Encountering the Imperial Japanese Navy, the United States Navy had to use a variety of weapons that had to be combined in complementary and effective ways to reach the necessary objectives of the battles that were fought. Those who fought in surface ships, submarines, and amphibious forces experienced naval battles in ways which were updated experiences that were not familiar to previous generations of sailors. Those who fought in the air experienced quite a different character of naval battle created by the new dimensions involved in air warfare. In the immediate post-war period, naval officers began to reflect on their experience of these changes. After graduating from the Naval War College in 1945, a Commander Alfred Matter joined the college's faculty for the academic year. A naval aviator and future Rear Admiral, Commander Matter validated Brody's earlier point when he said, heavy combatant ships, anti-aircraft fire support ships, and screening ships must accompany the aircraft carrier to ensure her the necessary freedom of action required to employ her aircraft to the fullest extent of their capabilities. Going further, Matter directly emphasized the point when he said, the carrier task force is not based on the premise that the aircraft carrier has outmoded the battleship and cruiser. On the contrary, it recognizes the dominant characteristics of these ships and utilizes their elements of strength in forming part of the most powerful air-sea striking force known. But even the newest things have elements of the old. After noting that the carrier task force had become the primary agency by which the command of the sea is obtained and exercised, he went on to point out in his lecture a fundamental point about the nature of air operations that contained echoes of considerations from the age of sail. In pointing out the need for a carrier to turn into the wind to launch aircraft, he commented, it can be seen that the effect of the wind upon aircraft carrier operations makes the leeward side of the enemy tactically the most advantageous where carrier forces are involved. In 1946, the German-born naval strategist Dr. Herbert Rosinski had first come to speak at the Naval War College and impressed his professional audience by his wide-ranging and original insights into the topic. Rosinski, too, grappled with the broad issue of how naval aviation had changed strategy. Returning to Newport in 1948, Rosinski told the War College students and faculty, in the field of naval strategy, the development first to transoceanic and then to world-encircling strategic dimensions was affected not so much by the advances in the means of propulsion, but by the enormously increased powers of observation through the development of the airplane and further of radar, as well as the means of instantaneous and worldwide communications. Within these two developments is inconceivable how the transoceanic campaigns of the last conflict could have been directed. Compared with the magnitude of these changes, the fact that the traditional bearer of sea power, the battleship, has now been replaced in most, if not all, of its functions by the new instruments of the carrier constitutes a relatively subordinate, if still most impressive, fact. Speaking two years later in 1950, Captain George Carmichael made a perceptive point in his reflections on the war in the Pacific. Particularly apparent, he said, was the lack of Allied naval understanding of the predominant and indispensable role of air power in its operations at the sea. The day, not of the battleship, but of the battle line concept was doomed by the rapid succession of serious losses to enemy sea power. In this observation, through his quotation, though this quotation is made rather late in the Naval War College, reflects the fundamental change in naval battle that occurred during the war in the Pacific. From the Anglo-Dutch Wars of the mid-17th century, the idea of linear battle fleet formation had been firmly in place and reflected in an effective way to use heavy broadside guns to concentrate fire against an enemy fleet in a similar tactical formation. This concept was the basis of naval tactical thinking for major fleet operations through the Battle of Trafalgar and the Battle of Jutland in 1916. It was still a concept prevalent among naval officers in the battleship fleet on the eve of World War II. And while the aircraft carrier and naval aviation had been in use for several decades, the Imperial Japanese Navy is generally credited with putting into practice the first original naval tactics based on the striking power of independent aircraft carrier forces. Between 1937 and 1941, Japanese naval technicians developed a system to mass its aircraft through fleet formations that concentrated aircraft carriers. And while this tactical effectiveness, it also created a strategic risk in the event of an enemy first strike on the concentration of carriers. By late 1940, the Japanese Navy had developed a box formation that allowed the attack aircraft air masses to groups to mass for effective operations while also launching larger numbers of aircraft in patrol aircraft with flexible missions of reconnaissance, defense, and attack. To support this, a fleet air system had been established in the Japanese Navy in 1941, and the first air fleet followed in April 1941, which composed of three aircraft carrier divisions, two seaplane divisions, and 10 destroyers. This innovative administrative and operational organization created the most powerful naval air force of any navy in the world. In the period leading up to the outbreak of the war, Japanese naval leaders had intended to use the box formation for preemptive attacks against naval enemy aircraft carriers as a supplement to their more main emphasis on the more traditional approach of the battle line with battleships. In the first 6 months of the war, the United States and the Royal Navy had no large aircraft carrier forces ready to oppose the Japanese in the Pacific or the Indian Oceans. As a result, the initial use of the effectively trained and organized air formations were primarily used by the Japanese to attack enemy land positions. The first major aircraft carrier battles, that is, between aircraft carrier forces, that subsequently occurred were the Coral Sea, Midway, the Eastern Solomons, then Santa Cruz, and the Philippine Sea. Each had its object was the fate of an island or a land area. And as the experience of these battles accumulated, the opposing navies needed to learn and to adapt to the newly emerging conditions of naval battle. The Battle of the Coral Sea in May of 1942 was the first naval battle fought in history in which the opposing fleets did not come within sight of one another. And although the Americans lost a carrier and suffered other heavy losses, the Japanese had lost 30% of their carrier aircraft and 10% of their trained naval aviators. Without enough aircraft on hand to support an invasion, the Japanese canceled their expedition to take Port Moresby in Papua New Guinea, thereby allowing the Americans to keep open the sea lines of communication between the United States and Australia. The most important lesson that Americans learned from this experience was the need for more fighter aircraft and multiple aircraft carrier formations for greater synergism among the carrier formations for the multiple fighter aircraft functions, which involved attack, defense, and scouting. Within this mix, an additional function and need emerged, the ability to protect strike aircraft proceeding on a mission. And this was shown during the Battle of Midway that was fought in a few months later in June of 1942. Japanese naval forces sought to neutralize the Hawaiian Islands, to secure Midway Island as part of its defensive perimeter, and to create a possible launching point for a future attack on the mainland United States. Fought over a vast range of the Northern Pacific in a highly complex action with the main fleets out of sight of one another, the key event was the chance but successful American dive bomb attack on an unprepared Japanese aircraft carrier formation, hitting and sinking three Japanese carriers while their aircraft were being armed and refueled on deck. Another Japanese carrier was sunk shortly afterwards. These losses in ships, aircraft, and pilots forced the Japanese to withdraw from their attempt on Midway, although they successfully seized Attu and Kiska Islands far to the north in the Aleutian chain as part of the same operation. The next major carrier operation was in the eastern Solomon Islands in August of 42, as the Japanese once again were attempting to gain territory in the southern Pacific, this time at Guadalcanal and Tulagi. Demonstrating important new aspects in naval tactics, American radar detected Japanese aircraft attacking at a distance of 88 miles and with an estimated altitude of 12,000 feet. Able to identify the threat axis of the attack and the fighter aircraft already overhead, despite some confusion, the American carriers were able to launch additional fighter aircraft and make radically evasive courses at the ship's maximum speed to avoid attack. Despite several bomb attacks, the American carriers came through the attack with minimal damage. With an effective fighter aircraft and the anti-aircraft of the new battleship North Carolina, the carriers, cruisers, and other surface ships. The outset of the battle, the Japanese aircraft had outnumbered the Americans by an estimated 177 aircraft to 153. In the action that included land-based Japanese aircraft, they lost an overall total of about 90 aircraft, including the equivalent of about two carrier air groups. Although the powerful Japanese warships were still largely undamaged, the Japanese broke off the action and withdrew their forces due to the losses in carrier aircraft support. In reflection on this experience of the first three carrier battles, Vice Admiral Frank Fletcher wrote to Admiral Chester Nimitz in September 1942, "The experience of this war so far has shown that the command of the air is the decisive factor in naval engagements, and fleets should be built around carriers rather than battleships." The Japanese leaders, however, did not accept their reverses for very long and renewed their attack against Guadalcanal in October of 1942. At part of the larger engagement over Guadalcanal, the carrier battle of the Santa Cruz Islands took place in October of 1942, an action that had similarities with the Battle of Midway. In both battles, American forces had to defend against a Japanese assault against a geographically strategic island, with the Japanese approaching in several groups of warships. In both cases, each side simultaneously had strike aircraft in the air to make an attack against the enemy aircraft carriers. While under attack, the commanders on each side had to simultaneously deal with apportioning their aircraft between the missions of search, strike, and defense. In this action, the air groups from four Japanese carriers launched about 175 planes against two American aircraft carriers. American naval forces shot down an estimate of 161 of those attacking Japanese planes. After having taken these air losses, but with no losses to their warships, the Japanese retired from the battle. The Americans lost 20 planes in the combat and an additional 50 to accidents. In addition, one of its aircraft carriers and a destroyer had been sunk, while another, among others, were damaged by bomb hits. With this campaign, the Japanese ended their repeated attempts to take Guadalcanal, and both the Japanese and the Americans withdrew their battleships and aircraft carriers from major fleet operations for an entire year. In the aftermath of the Battle of the Santa Cruz Islands, a disagreement arose as to whether or not the carriers or task groups should be operated together or independently, a disagreement among American officers. Admiral Kincaid believed that having them separate causes delays and reduces battle efficiency. By having two carriers together, one carrier can take care of routine flying while the other maintains her full striking group spotted and ready to launch on short notice. In the following months, at the end of 1942 and 1943, a large discussion arose on the proper use of carriers in battle with different tactical formations, but no general consensus had developed at this point. The aviation specialists were disappointed in the Guadalcanal campaign, believing that the carriers had been denied their mobility and the carrier task force should have been commanded by trained and highly experienced naval aviators. They saw that the Guadalcanal campaign had been planned by battleship admirals who thought in terms of ship's fuel and ammunition for the ship's guns. In dealing with the combat aircraft, a task force commander had to understand intuitively the issues of maneuvering warships on the surface, as well as the multidimensional maneuvering of aircraft in combat. They needed to appreciate wind and weather in relation to ships, but also in the different calculus for the wind and weather needed to launch and deploy and recover aircraft. Aviation logistics were much more complicated and involved not only fuel and ammunition, but also additional aircraft and much wider variety of spare parts for aircraft. As naval historian Clark Reynolds put it, without a steady flow of spare parts, any damaged plane was a total loss. It simply couldn't fly again. Additionally, they believed that more than one carrier should be assigned to a task force. The Navy Department agreed in the future that Naval Carrier Task Force should be commanded by flag officers who were experienced aviators, but the debate continued for some time over the use of single or multi-carrier task force. All the participants in the discussion agreed that mobility and flexibility were the essential attributes. In 1943, both sides in the air war in the Pacific shifted from primary reliance on carrier aviation to the use of land-based aviation. And during this interval, new American fleet air commands were developed and based on the West Coast in San Diego and in Alameda in California and Seattle in the state of Washington, under the supervision of Commander Air Force Pacific. The role of these new shore-based air stations was to maintain the steady flow of aircraft's flight crews and aviation supplies to the forward combat areas in the Pacific, and this was to be a key factor in the future. Meanwhile, the conferences of Allied leaders in Casablanca in January 1943 and in Washington in May 1943 had refined Allied grand strategy. Following these meetings, American naval leaders implemented a two-pronged strategy that incorporated both General MacArthur's recommended Southwest Pacific approach along the New Guinea-Mindanao axis toward the Philippines and Admiral Nimitz's plan for island hopping across the Central Pacific through the Gilbert and Marshall Islands to the Marianas and then to Japan. At the same time, U.S. naval forces implemented more effectively its unrestricted submarine warfare campaign against Japan. As part of the Central Pacific campaign, Admiral Raymond Spruance's Fifth Fleet included 15 aircraft carriers and 954 aircraft, as well as 93 other warships, including 7 new battleships, 10 cruisers, and 58 destroyers. By mid-June, this force was in the vicinity of Saipan in the Marianas. And Allied intelligence revealed that 2 Japanese forces, under the commands of Jisaburo Ozawa and Takeo Kurita, would oppose the American force in the Philippine Sea. On the 16th of June, Admiral Spruance inferred correctly from the available intelligence that the coming battle was going to be a duel between the 2 air wings of opposing aircraft carriers and made the enemy's carriers his main targets. On the following day, Spruance followed his battle plan and announced that actions against the enemy must be pushed vigorously by all hands to ensure complete destruction of the enemy's fleet. The following day, as forces were in motion to prepare for battle, the American aviation admirals began to be critical of these preparations. First, the commander of the U.S. battle fleet, Vice Admiral Lee, declined to prepare for a night action against the Japanese forces, but apparently he did so not realizing that a daylight surface action was no longer possible in the presence of enemy aircraft carriers launching hundreds of attack aircraft. The aviation admirals were also critical that the surface force admirals did not appreciate the reach and mobility of aircraft carriers and airplanes. Admiral Spruance's decision to move his fleet eastward away from the approaching enemy to provide a defensive line against for the island of Saipan, rather than to move westward to be in a position to make an offensive strike against the main body of the approaching Japanese force. The aviation admirals argued unsuccessfully at the time that the mobility and range of the aircraft carrier could provide defense for Saipan while also making an offensive attack. In the event, these pre-battle discussions about optimal carrier tactics were overtaken by the actual events in the Battle of the Philippine Sea. The battle itself, it lasted for two days. The Japanese lost 475 planes, including the pilots and crew, while the Americans lost about 100 of their 219 aircraft, but only they only lost 16 pilots and 33 air crewmen. The aviators had won the air battle using, and the Japanese were unable to recover Saipan. The Japanese fleet had not been destroyed, and although only two of their nine aircraft carriers remained seaworthy, and the fleet had few resources for another to supply its aircraft cover in the battle for Leyte Gulf that followed over the remainder of 1944. Over the course of the 4 years of naval conflict in the Pacific, between December 41 and August 1945, the aircraft carrier and naval aviation wrought important new changes to the character of naval battle that had not been previously present. Many of the traditional long-recurring characteristics of naval battle remained alongside the new. These new aspects arose through cumulative experience and development in naval aviation. Both naval aircraft and aviators became better. In 1942, for example, 5% of the American naval aircraft launched in combat were lost. In 1945, less than 0.8% of the combat sorties were lost. In the first 2 years of the war, 19,000 combat sorties were flown. By 1944-45, that number had increased by 12 times to 239,000 aircraft sorties. In 1941, there were only 1,700 aircraft and 8 carriers in the U.S. Navy. By 1945, there were 29,000 aircraft and 102 aircraft carriers of all types. Tactical ranges of naval aircraft had increased, while the size and effects of weapons also increased. The composition of carrier air wings changed from a relatively proportional mix of reconnaissance strike and fighter aircraft to more emphasis on fighters. Aircraft carrier naval aviation proved to be extremely effective in combat due to the carrier's capacity to combine its offensive power with a high concentration of defensive power fire control systems and its ability to move within range of a target for the most effective employment of its aircraft. According to one analyst, American aircraft, American carrier aircraft shot down or destroyed 12,000 Japanese aircraft. 60% of those were shot down in aerial combat and 40% on the ground. And 93% of these aircraft were land-based. The changing character of naval battle through the use of the aircraft carrier and naval aviation can be discussed, as I've pointed out, in terms of innovation, technological innovation, strategy, operations, tactics, logistics, and industrial support, as well as in terms of professional education and practical training. But additionally, one can discuss this subject in terms of the face of battle, the phrase that John Keegan made famous in 1976 with his book of that title. His focus was on the individuals in land warfare and personal reactions to battle. And Kegel dealt with the whole range of emotions and perceptions that human face in combat situation. This topic was extended to Battle at Sea by John Reeve and David Stevens in their 2003 volume published in Australia. The physical requirements for a naval aviator in World War II were stringent. Aviation was a hazardous occupation in any case, but naval aviation involved aircraft carrier operations and made it the most hazardous of all. For that reason, it attracted adventurous young men looking for a thrilling and demanding experience that faced not only the dangers of an enemy, but also those of the sea itself. As one historian described the environment, both Japanese and American aviators operated in an extreme environment that made severe demands on their minds, senses, and vital organs. As an aviator's vision had to be at least 25% better than normal, with perfect depth and peripheral vision and no color blindness. His body had to be able to withstand effects of dives and sharp turns at high speeds, and he could increase the effective weight of a 150-pound man to over 750-pound man and cause blackouts. Aviators needed to endure the effects of cold and high winds. Flying at over 18,000 feet brought need for oxygen, and the lack of it reduced ability for physical coordination and mental concentration. Carbon monoxide from aircraft engines could also be a problem and cause fatal carbon monoxide poisoning. After combat action in the air, naval aviators had to return to their carrier and then land with a type of controlled stall on a flight deck that was not only moving ahead, but rising and falling with the motion of the sea. The direct relationships of aircraft and aviator to the aircraft carrier with additional dangers of the sea were the major factors that made naval aviation different from other types of aviation. Naval aviation emphasized the capabilities of individuals and their personal control of the machine and weapons that they operated. At the same time, they had a very close relationship with their ship and the ship's crew that supported them. Naval aviators flew and fought in fragile aircraft, either alone or single pilot aircraft, or with small crews in other types of aircraft. The amount of time that aviators spent in their aircraft was relatively limited, and this contrasted with the sailor's relationship to a warship, which seamen have traditionally seen as a floating home, a way of life, and a microcosm of society ashore modified by unique circumstances afloat. Sailors in warships and navigators in the aircraft are often personally detached from the destruction they create. The flyer's environment is a technical and professional one that often lacks any sense of anger or struggle or emotion that other forms of combat involve. On the other side, those on the receiving end in ships that faced an onslaught from the sky felt terror as they closely observed and were part of the mayhem that ensued as entire ships and their crew were sunk with great loss of life. For Allied sailors in the Pacific, the unexpected appearance of the Japanese kamikaze suicide planes in late 1944 and 1945 was something nearly unimaginable and entirely outside of the previous moral framework for Americans. Extended kamikaze attacks over a period of time created great traumatic stress in a number of individuals. In air-to-air combat, naval aviators sought to kill their enemies in a unique way, but in doing so, many shared the combatant's typical feeling that they needed to kill or be killed. Those who attacked surface planes, ships gave their impression of detachment and performance of a mechanical act. A ruthless commitment to killing an enemy sometimes leads to a feeling of indifference about one's own fate, and that was a common feature of naval aviators. Casualties were very high among naval aviators, not only in combat, but also in routine flying. Despite these differences, however, one should not deny the similarities in the battle experience between naval aviators and others. Fighting with a warplane is a different technical discipline than that of fighting with a ship or a submarine or fighting ashore, but all involve group dynamics in using weapons within the interface between technology and human skills. Thank you.
Bien, il nous reste 10 minutes à peu près. S'il y a beaucoup de questions, je propose qu'en reprenant cet après-midi, nous continuions éventuellement la discussion, parce que M. Facon, n'ayant jamais donné signe de vie, en nous espérant qu'il est en vie, il est improbable qu'il soit présent, mais on ne sait jamais. Bon, M. Knapp voudrait poser une question. Contredit un peu ce qu'il a dit, et ce que vous confirmez par votre question, ce qui a été dit, à savoir que le capital technique se transfère assez facilement, presque instantanément, en imitant tout simplement le voisin ou l'ennemi potentiel. Le capital financier, bon, évidemment, c'est un peu plus compliqué, mais c'est un problème de fiscalité, donc de politique, et vous avez dit c'est le capital humain qui est le plus difficile, du moins dans la marine. Il faut très longtemps, des générations successives. Or effectivement, comment les Américains ont-ils fait pour maîtriser enfin la situation aussi rapidement? Je confirmerai cette question que je me pose depuis fort longtemps.
The existence of this learning curve rather contradicts the idea that that human change in human attitudes is more difficult and slower to achieve than technological or capital change or
yes.
The other sort.
It's a typical problem of technological innovation where getting the acceptance of that in a wider field is a fundamental issue in naval history, certainly, probably in air history as well. It's something you see there, the conservatism that exists and how that changes, and how in order to get technological change, the dynamics of this is so there's some interesting historical studies have been done on this, how the kind of patronage that is needed to champion a particular new innovation and how that needs to be put into the general education of officers was something we deal with at the Naval War College all the time, is looking at other new ideas and how those are come in, and these are tried out in war games and other things. But it takes a long time for the senior officers sometimes in certain areas to be that. In other cases, those some of the senior officers become the patrons of bringing in new technology. The most famous example in American naval history, I suppose, is Admiral Rickover in the nuclear submarine, where the Navy was doing all it could to get rid of this bothersome admiral, and but Congress and the President liked him, so they were able to continue.
Bien, je vais répondre en trois temps. Je vais lier, si vous le voulez bien, la question du dreadnought à la question de l'adversaire principal, parce que les choses sont liées. Aucun souci, Monsieur le Président. D'abord, est-ce que le dreadnought est aboutissement et rupture? C'est un aboutissement de champ de force économique, budgétaire, de politique intérieure, de politique navale, de politique militaire. À l'intérieur même, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais de l'Admiralty Board, il y a des tensions très très fortes, puisque Fisher, lui, n'est pas l'avocat du dreadnought, puisque son enfant chéri, c'est le Battle Cruiser, pour des raisons qui tiennent, comme je l'ai dit, à l'expansion complète. Et donc, le dreadnought est un aboutissement, parce que c'est dans les chantiers navals britanniques, c'est dans les laboratoires, sur les tables à dessin que ces choses se sont faites, et c'est une rupture comme l'est la gloire. Parce que c'est une rupture de tous les ordres d'engagement, concentration de l'artillerie, vitesse du bâtiment, turbine Parsons. Il y a l'ensemble qui dessine, c'est un moment de coalescence très très forte. Mais moi j'irais jusqu'à dire que la gloire comme le dreadnought, comme dans une certaine mesure l'outil nucléaire, ce sont en quelque sorte des outils qui ont entraîné la réflexion sur la façon de s'en servir ou de ne pas s'en servir. Et au fond, c'est ça qui est intéressant dans cette affaire. Et c'est lié à l'affaire de l'adversaire principal. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de menace allemande. La menace allemande, elle est extrêmement claire. En plus, les lois navales de Tirpitz, c'est 1905. Donc les choses sont très, très claires. Mais en 1906, si la marine allemande a dépassé la marine française, le danger qu'elle peut représenter n'est absolument pas... en tout cas, il n'est pas du tout aussi clair qu'il le sera, par exemple, en 1908 ou 1911. Et alors, au moment d'Agadir en 1911, c'est absolument certain. Et c'est d'autant plus clair que Fischer, à l'époque, voyant pourtant la croissance de la marine allemande, imagine encore un plan de défense des côtes britanniques avec des sous-marins et des torpilleurs. Donc, il y a aussi une jeune école anglaise. Il y a une Young School du côté de la Navy. Il faut faire attention. Tout ça rend très prudent. Deuxième point sur ce pauvre Bouvet qui s'est quand même sacrifié aux Dardanelles, l'amiral Gephardt ayant obtenu la place d'honneur devant les cuirassés britanniques. Je crois que c'est le résultat d'une somme de mauvaise gestion à la fois ministérielle, militaire et en même temps d'absence de continuité dans la politique navale. Les ministres, ils se succèdent à un rythme très très important. C'est un facteur important. C'est pas le seul, parce qu'on a vu des ministres se succéder à d'autres périodes et une excellente administration assurer la continuité. Si je puis me permettre, je veux pas faire d'allusion à des périodes beaucoup plus récentes. Mais en tout cas, il y a des choses comme ça qui existent. Je crois surtout, et je vais vous donner l'exemple, entre 1911 et 1913, il y a un ministre de la Marine qui s'appelle Delcassé, Théophile Delcassé. Or, Théophile Delcassé, là, c'est un des artisans de l'entente cordiale, alors qu'il est ministre des Affaires étrangères. Et de quoi s'aperçoit Delcassé? Il s'aperçoit que pour compléter l'entente cordiale, il faut un outil naval, et que l'outil naval français n'existe pas à cette époque-là. Et c'est pour ça qu'il demande à être ministre de la Marine, alors que le ministre de la Marine, pardonnez-moi, dans le gouvernement de l'époque, quand on a été ministre des Affaires étrangères, et surtout quelqu'un de l'importance de Delcassé, et il le reste 2 ans. De 1911 à 1913, et c'est lui qui crée le premier statut naval, c'est lui auquel on doit le Bouvet, etc., etc. Donc c'est une façon de répondre à cette affaire. La Troisième République a tout un défaut de tout ce qu'on peut imaginer. Il y a une continuité dans l'armée de terre qui est très forte. Hein. Je rappelle que pendant qu'on fait ces séries stupides du Danton et du reste, on fait le Lebel, le canon de 75, les mitrailleuses à tir rapide, on a quand même des outils militaires qui sont intéressants. Alors, sur le passage de la chauffe au charbon, aux turbines et au pétrole, ce qui est intéressant, c'est que ce passage, il se fait, et là c'est vraiment très intéressant, il se fait dans les marines pendant la guerre, qui continue à construire des bâtiments neufs. La marine américaine, pendant la guerre de 14, construit 9 millions de tonnes de bateaux marchands. 9 millions de tonnes à elle seule. La marine américaine, pendant la guerre, construit plus de bateaux de guerre que la marine britannique. La différence est de 50 000 tonnes à peu près. Elle n'est pas extraordinaire, mais c'est de l'ordre du million et plus du million de tonnes. La marine française, pendant la Grande Guerre, construit 22 000 tonnes de bâtiments neufs. Donc elle ne construit pas de bâtiments neufs. Et donc le passage d'une chauffe à l'autre ne se fait pas pour la marine française. Il se fait probablement ensuite, à l'exception des bâtiments, évidemment, qui avaient déjà les turbines, comme l'équipe Courbet, l'équipe Lorraine ou les autres. Et ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est que quand vous voyez des bateaux de la classe Texas, qui sont des pré-dreadnoughts, ils ont déjà adopté ce système à la chauffe au fioul et au système des turbines. Et c'est pendant la guerre qu'il y a vraiment c'est là que ça se passe. Les bâtiments français qui interviennent en mer Noire, l'escadre de l'amiral Hamet, l'immense majorité de ces bâtiments intervenant en mer Noire doivent faire venir leur charbon de Cardiff. C'est un exemple un peu concret, mais qui montre bien les choses. Et puis juste un dernier mot sur la formation des hommes. Je crois que là on tient un fil, vraiment un fil rouge extrêmement important, qui, je dois dire, est un peu délaissé par les historiens français au profit d'une histoire politique, de la marine, de choses qui sont sympathiques. Mais à la fin des fins, l'opérationnel, c'est le capital humain. Et il y a là quelque chose qui mérite que les historiens, probablement, investissent un tout petit peu plus ce champ qu'ils ne le font. Je parle évidemment d'historiens français, je ne saurais me permettre de parler des autres.
Merci. Yes.
I just wanted to add a point. I think to return to your point earlier in the last session, as well as the decisive nature of a naval battle, the search for that, I think, ended in the Second World War. This was ancient predecessor at Newport, Alfred Thayer Mahan, was certainly the man who thought about this, and it was continued up until World War II. But after this time, I don't think in World War II the reflections are that they're not looking for decisive battle, but they are looking for battles that engagements which, in fact, are two ways. One is they are sequential. They allow an action, as these carrier actions that I talked about were. They allowed one to have another, go from one place to the next step and the next step, or they were cumulative in the fact that they chipped away at things such as the submarine warfare attack in that way. And the emphasis is not on creating a decision, but in, particularly after one has command of the sea, using the seas, preventing the enemy from interfering with you. And this is what the role of the Navy is in the more modern period, as opposed to what people thought they were doing in the 19th century.
Thank you. Now, il faut y aller parce que le restaurateur va s'impatienter. Bon, merci.